Vous aviez raison quelque part. Pourquoi ? Parce qu'il faudra attendre les années jusque dans les années 1920 pour que la question grecque soit résolue. Il y aura des guerres tout au long. Il y en a encore au début du XXe siècle. Il y aura le traité de Sèvres en 1920 qui donnera d'ailleurs même une partie de la Thrace occidentale à la Grèce, ainsi que le maintien de Smyrne, c'est-à-dire sur le continent turc, à la Grèce. Mais les Grecs, avec leur nationalisme, fera que ils vont repousser les Turcs plutôt, vont repousser les Grecs. Il y aura le traité de Lausanne en 1924. Voilà. Donc vous voyez, on n'est pas loin de 1929. Donc un siècle.
Finalement, j'avais raison.
Écoute. Voilà, exactement. Bah, tu avais raison.
Et, j'y mets un peu de mauvaise foi, je reconnais.
Le traité de Lausanne est un peu absurde puisque il donne toutes les îles quasiment à la Grèce, mais le continent, il n'y a plus que la Turquie. Et donc, à l'heure actuelle encore, quand je dis qu'on a laissé tomber les Grecs, à l'heure actuelle encore, il y a un problème. On n'a toujours jamais résolu tout à fait les frontières de la Grèce.
Êtes-vous vacciné, très cher Alain Jacques?
Oui, d'ailleurs, je vais faire ce qu'on appelle le booster dans quelques jours.
Donc vous ne faites pas partie des personnes que Emmanuel Macron a envie d'emmerder jusqu'au bout, hein.
Non.
Pour reprendre ses propres expressions quand vous allez en France.
Non, mais je fais partie de ceux qui estiment qu'ils n'ont pas été, qu'ils l'ont pas fait tout à fait volontairement, disons, hein.
Et on avait dû vous pousser.
Oui.
J'étais ceux qui vous ont poussé.
Même, au même moment, l'année dernière, quand vous me posiez la question pour le vaccin, j'avais dit, je ne suis pas un adepte de la roulette russe.
En 36.
C'est une autre histoire.
Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Waouh, voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron dans un entretien mis en ligne par Le Parisien. C'était mardi dernier. Ces propos du président de la République française sont-ils dignes d'un chef d'État sur le fond, sur la forme surtout? L'occasion peut-être, Alain Jacques Tornard, de se pencher sur l'échiquier politique français alors que nous sommes à 3 mois, quasiment jour pour jour, de l'élection présidentielle.
Oui, vous m'avez demandé là de faire quelque chose d'affligeant, parce que c'est affligeant ce que nous offre comme scène la vie politique française, quoi. Actuellement, on avait dit de François Hollande, un président ne dit pas ça. Vous vous souvenez, il y avait même un bouquin qui s'intitulait un peu comme ça. Il y a un mois et demi, le même Emmanuel Macron, devant notre cher Darius Rochebain, avait dit le respect fait partie de la vie politique.
Ouais. Il avait repris, on s'en souvient, un petit jeune lors d'une de ses sorties en disant « Tu m'appelles pas Manu, tu m'appelles Monsieur le Président ».
Voilà, exactement. Donc, on doit respecter les autres quand on veut être respecté. Mais bon, moi, ce qui m'a gêné, il y a plusieurs choses qui m'ont beaucoup gêné. La première chose, c'est que les politiques proches de Macron et les journalistes complaisants ont rappelé que d'autres présidents avaient fait des remarques similaires, presque. Alors, on cite, par exemple, Georges Pompidou, en 1966, qui avait dit, mais arrêtez donc d'emmerder les Français, il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays, on en crève, laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira mieux, foutez-leur la paix, il faut libérer ce pays. Sauf que, il n'était pas président de la République, mais Premier ministre. Mm-hmm. Que ses propos avaient été tenus en 1966 auprès de son collaborateur, qui n'était autre d'ailleurs que Jacques Chirac à l'époque, qui était jeune secrétaire. Il allait devenir un ministre lui aussi, mais qui ne jouait pas un rôle. Et ce sont des propos qui n'avaient pas été rapportés à l'époque, puisqu'ils étaient d'ordre privé. Et vous voyez, c'est ça qui m'embête beaucoup à l'heure actuelle, c'est que on contextualise jamais, on compare ce qui ne peut pas être comparé. Alors vous allez me dire, oh, il y a Sarkozy. Ah oui, Sarkozy qui avait dit en 2005.
Le fameux casse-toi pauvre con.
Voilà, exactement.
Bon, c'était pas dans un entretien officiel. Hein.
Non, bien entendu, c'était dans le feu de l'action. Mais il avait aussi dit, vous savez, l'histoire du Karcher.
Ah oui, le nettoyage des banlieues au Karcher.
Voilà. Sauf que il était, là aussi, c'était dans le feu de l'action, et surtout, c'était, il était ministre de l'Intérieur. Mm-hmm, il n'était pas président de la République. Il y a des strates de comportement, j'allais dire. Hein. Il y a des choses que vous dites à titre privé. Ça nous arrive aussi hors antenne de dire des bêtises comme ça.
Pas vous, Alain Jacques, jamais.
Non, chers auditeurs, chers auditeurs.
ne tuez pas le mythe.
Mais disons que il y a ce qu'il faut savoir se tenir en public. Et là, je veux dire, c'était lors d'une discussion avec dans le cas de Macron, avec des lecteurs d'un journal parisien. Et donc, c'était vraiment des propos qui avaient été totalement maîtrisés. C'était pas dans le feu de l'action. Il y a quelque chose qui est assez amusant dans cette histoire, c'est ce que ça cache, Mike. Pourquoi ? Parce que il a aussi dit que c'était des irresponsables ceux qui étaient contre le vaccin et qui n'étaient pas dignes d'être des citoyens. Et ça, c'est étonnant parce que tout le monde s'est rué sur la phrase avec ce mot vulgaire, mais personne n'a, peu ont relevé le fait qu'il ait dit ça.
C'est vrai.
Et ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire dénier à celui qui exerce librement sa capacité de citoyen en disant qu'il n'est pas d'accord. On peut dire qu'on n'est pas d'accord avec lui, mais on ne peut pas lui dénier le titre de citoyen.
Ouais, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire rendant la vaccination obligatoire.
Exactement.
Purement et simplement. Hein.
Et en plus, certains quand même observateurs avisés ont pu remarquer que quand il y a eu les attentats islamistes, on n'avait pas tenu ce genre de... En tout cas, un président de la République n'avait pas tenu ce genre de propos en disant qu'il fallait retirer son droit de citoyenneté aux musulmans exaltés, par exemple. Donc ça, c'est extrêmement gênant. Et là, il a commis une grave erreur. Ce que je pense, c'est qu'il veut faire aussi... c'est un leurre. Vous savez, c'est quelqu'un de très intelligent.
Autrement, il ne serait pas au poste qu'il occupe actuellement.
Oui. Moi, j'ai du mal à me situer par rapport à lui. Hein.
Je me souviens que quand il menait campagne avant son élection, vous n'étiez absolument pas persuadé par la personnalité d'Emmanuel Macron.
Non,
même lors des premiers jours de son mandat.
Et encore maintenant, j'ai du mal à le saisir. Donc, il m'étonne un petit peu. Mais je pense qu'il a utilisé là ce qu'on appelle un leurre. Vous savez, je vous dis souvent qu'en histoire, on utilise des leurres, on donne des os à ronger aux gens avec deux objectifs. Un, premièrement, c'est de solidifier le socle électoral qui est le sien. Il peut compter sur 25% de la population qui est farouchement pour le vaccin. Et les 25% contre vont jamais voter pour lui. Mais les 25 pour, oui. Et donc, il faut solidifier ce socle parce que son but est d'arriver en tête au premier tour pour pouvoir le gagner au second. La hantise qu'ont les derniers présidents de la République, je vous rappelle quand même que Sarkozy a été battu, que Hollande n'a même pas osé se présenter et que lui, il aimerait absolument pas terminer deuxième au premier tour. Mmh. Même troisième éventuellement d'ailleurs.
Vu qu'on parle justement de ce premier tour, quel est le principal rival ? Qui sont les principaux aux rivaux d'Emmanuel Macron pour
c'est
ce premier tour.
C'est encore très difficile à dire parce que vous vous souvenez qu'on avait
médiatisé, c'est bien sûr Éric Zemmour.
Mais Éric Zemmour n'est vraiment pas sûr d'avoir le nombre de grands électeurs puisque c'est rendu public, il en faut 500. Il est loin du compte. Je pense que Macron a tout intérêt à ce qu'il soit présent pour diviser le camp de la droite dure et pour se retrouver avec Valérie Pécresse au deuxième tour.
Qui a ressorti le Karcher d'ailleurs, elle.
Elle aussi, mais elle a du mal à trouver son segment parce qu'il est très habile. Alors je pense que ce qu'il veut faire aussi oublier, là où il y a l'occultation, c'est que le carnet vaccinal, le pass vaccinal, comme on l'appelle, qui va être mis en place en France, rappelle des mauvais souvenirs aux Français. C'était le livret ouvrier du 19e siècle, par exemple, où on surveillait les gens, où ils devaient présenter quand ils allaient travailler justement une sorte de passe, justement un livret, on appelait ça un livret. D'ailleurs, si on voulait utiliser un mot français, il devrait utiliser le mot livret, mais il l'utilise pas parce que ça renverrait justement à ce livret ouvrier qui était de mémoire, quelque chose d'extrêmement invasif, quoi. Et donc, je crois qu'il veut faire oublier ça. Pour l'élection présidentielle de 2022, on a du mal. Tout le monde pense qu'il va être réélu de manière assez facile. Je suis pas aussi sûr que de cela, parce qu'il peut y avoir une coalition de tous les gens contre. Je parle même pas de la gauche qui est bien sûr totalement éliminée. Ça aussi, d'ailleurs, pour la politique française, c'est très extrêmement négatif. Le fait qu'il n'y ait plus de gauche, alors qu'elle est toujours très présente sur le plan médiatique, sur le plan sociétal, toutes ces idées.
Mais pas sur le plan politique, bizarrement.
C'est très grave parce que ne plus être représenté au pouvoir alors qu'on exerce une telle influence, on parlait du politiquement correct, du wokisme, etc., etc. Tout ça est symbolique. utilisé par la gauche, à tort ou à raison d'ailleurs, hein, l'islamo, comment on appelle ça déjà, pas l'islamophobie,
l'islamo-gauchisme.
Donc voilà, l'islamo-gauchisme, ça existe bel et bien, mais moins ils sont nombreux, plus ils se font entendre, et il y a un déséquilibre. Et dans la politique française, il y a un extrême déséquilibre. Ça, c'est extrêmement dangereux.
On est à 3 mois du premier tour de la présidentielle. Nul doute qu'on aura l'occasion d'en reparler avec vous, Alain-Jacques Tornard. Dans quelques instants, Monsieur Molière, ou Jean-Baptiste Poquelin de son vrai nom, c'est comme vous le voulez. Le 15 janvier, ce génial auteur de pièces de théâtre aura 400 ans. Enfin, ça fera 400 ans qu'il est né. Est-ce que c'est vraiment lui qui écrivait toutes ces pièces, hein? On entend souvent dire que c'était peut-être quelqu'un d'autre du Fribourg.
C'est une autre histoire.
Le 15 janvier prochain, nous allons commémorer les 400 ans de la naissance de Molière. Alors, qui était véritablement Jean-Baptiste Poquelin, auteur d'une trentaine de comédies théâtrales, toujours enseigné de nos jours, hein? Moi, c'est mes bons souvenirs de littérature, étudier les pièces de Molière, et surtout la question que vous aviez vraiment envie d'aborder, Alain-Jacques Tornard, ça fait partie des mystères de l'histoire sur lesquels vous aimez bien vous pencher. Est-ce que Molière a vraiment écrit toutes ces pièces?
Ouais, c'est une grande question qu'on s'est posée au fil du temps, hein, parce qu'on n'a pas de manuscrits de Molière, un peu comme Shakespeare d'ailleurs. Vous avez remarqué que pour les Anglais, on dit la langue de Shakespeare, en France, on dit la langue de Molière.
Ça, c'est le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre.
Voilà, hein, exactement. Et on a raison d'ailleurs, parce que c'est un grand moment au niveau de la langue, mais dans les deux cas, pour des personnages non pas qui n'ont pas existé, mais dont on n'est pas très sûr de l'œuvre quelque part. Hein. Alors, il a créé des pièces qui ont fait entendre les mots des plus grands comme des plus humbles. C'est ça qui est intéressant. Hein. C'est pas intéressé à la mythologie, Racine, vous voyez, là, avec des vers, pour la bonne société. Il a créé une langue pour tous les habitants. Et c'est ça du royaume. Et c'est ça qui est intéressant au moment où justement se forme parallèlement l'Académie française, où on bâtit quelque part une langue commune à tous les Français. Il arrive donc particulièrement au bon moment. Mais il suscite encore la polémique. Mais de là à se poser la question si Molière a écrit ses propres œuvres, on a pensé que ça pouvait être Corneille, tout simplement. Reprenons l'affaire à son commencement. C'est une question de lutte des classes, j'allais dire. Molière, Poquelin, c'est un fils de tapissier. Alors, forcément, dans l'imaginaire collectif français, très aristocratique, est-ce qu'un fils de tapissier peut être en aptitude d'écrire des pièces, d'autant plus que c'était un saltimbanque. Il a mené aussi une vie de patachon, on l'a même accusé d'avoir épousé sa propre fille, c'est assez qu'il avait eu avec une autre femme. Le personnage est un peu senté le soufre. Et Pierre Louis, qui est un poète du début du XXe siècle, avait fait une étude. Il est convaincu que l'auteur d'Amphitryon, de Misanthrope, toutes les pièces dites sérieuses de Molière, c'est Pierre Corneille. Parce que lui-même, Corneille, avait fait des pièces comiques. L'illusion comique, par exemple, que j'aime beaucoup d'ailleurs, Le Menteur.
Pas les pièces les plus connues. Hein.
Non. Mais justement, parce que lui, finalement, il passait pour un auteur très sérieux, puis ça le gênait d'écrire des pièces légères. Donc peut-être que, celui qui était quand même membre de cette Académie française naissante ne voulait pas vulgariser, de devenir quelqu'un...
Perdre sa crédibilité.
Voilà. On dit qu'il y a un accord secret qui aurait existé entre les hommes, à l'un le masque, à l'autre la plume. Nicolas Boileau, d'ailleurs, avait soupçonné la tromperie lorsqu'il avait déclaré « Dans ce sac ridicule où s'enveloppe Scapin, je ne reconnais plus l'auteur du Misanthrope. » Voilà. Et Franck Ferrand, que vous aimez beaucoup, je crois.
Historien presque aussi bon vulgarisateur que vous, mon bon Alain-Jacques Tornard, qui a sévi pendant des années sur Orma, il doit être sur Radio-Canada. classique maintenant.
Voilà. Et en 2008, il avait dit qu'il y avait une rencontre entre Molière et Corneille en 1658 à Rouen, et qui, en fait, c'est là qu'il y aurait eu cet accord entre les deux hommes. Il est curieux, selon lui, que Molière n'ait laissé aucun manuscrit. Alors, l'austère Corneille, se cachait-il derrière le flamboyant Molière, se demande-t-il. Personnellement, je ne le penche pas. On a fait des rapprochements linguistiques, hein, en disant, voilà, c'est très proche, si on veut, la répétition de certains mots faisait que... Mais à l'époque, c'était quand même... si vous faites la même expérience entre Baudelaire et Rimbaud, vous pourriez penser que l'auteur des Fleurs du Mal est aussi celui des Cahiers de Douai. Je cite ça parce que ça a été écrit à Douai, ma ville natale.
Ah bah oui, Douai, forcément, c'est votre région natale.
Et puis, bon, en fait, faut même pas oublier qu'à l'époque, tout le monde se piquait des idées. Vous vous souvenez de la pièce Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, vers la fin, avant qu'il ne meure, on annonce à Cyrano que, justement, Molière lui a volé toute une scène. Que diable allait-il faire dans cette galère ? Mais il ne faut pas oublier que jusqu'à Beaumarchais, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, il n'y avait pas le droit d'auteur. Vous pouviez piquer tout ce que vous vouliez à tout le monde. Et donc, je veux dire qu'on retrouve des formules, tout ça. La Fontaine s'est inspirée des auteurs grecs. On a même pu croire à un moment donné que les auteurs grecs, c'était des auteurs du Moyen-Âge, des moines qui avaient écrit des textes, et puis c'était des faux. Et vous pouvez multiplier à l'infini le nombre de soi-disant faux qui sont des vrais. Et on ne s'y retrouve plus, encore plus qu'avec les tableaux, comme on peut le voir en ce moment. Et donc, il est de bon ton de déboulonner la statue, comme régulièrement on s'en prend à William Shakespeare en disant que c'était peut-être Francis Bacon, voire peut-être un souverain britannique qui avait écrit certaines de ses pièces. C'est le drame des primo-accédants, en fait. Hein. C'est-à-dire des gens qui sont partis de rien, et ces gens-là sont toujours soupçonnés de ne pas être légitimes dans ce qu'ils font.
Alors, plutôt que de rendre à César ce qui est à César, rendons à Molière ce qui est à Molière.
Exactement.
Hein. Une pièce que vous conseilleriez à nos auditeurs de lire ou de relire particulièrement. Moi, mon coup de cœur, c'est Le Bourgeois Gentilhomme.
Ouais, moi, j'aime beaucoup Le Malade Imaginaire aussi.
D'accord.
Voilà. Ou bien Le Petit Chat est mort.
Ah bon ?
Oui, non, c'était dans une des pièces. C'est là qu'on avait découvert Isabelle Adjani.
Vous vous souvenez ?
Elle disait ça, et c'était tout un...
En plus d'être littéraire, c'est un fin esthète, hein, notre ami Alain-Jacques Tornard. Un plaisir de vous avoir retrouvé pour la première fois de cette année 2022. Très rapidement, on a déjà des pistes, hein, pour la semaine prochaine, le contenu de cette émission. Hein.
Oui, parce que...
Vous avez suivi l'affaire Novak Djokovic,
voilà,
par
exactement,
exemple.
Exactement, et ça dit beaucoup sur la situation internationale. On parlait de la Grèce, d'ailleurs.
On est
tout à fait dans cette ligne de fracture de l'Europe.
Ah bah ça nous fait un sujet déjà pour la semaine prochaine.
Et qui prolonge ce que nous avons dit aujourd'hui.
Parfait. Bonne journée. Portez-vous bien, là, Jacques
Bonne
Tournard.
Journée à tous. Et encore bonne année. Hein. Profitez-en bien. Soyez optimistes.
Cadet Bostani, Wild in Secret, c'est tout de suite sur
Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
La bonne nouvelle du jour.
Bonne nouvelle, un banquier de Wall Street démissionne et ouvre une pizzeria pour les sans-abri. Je vous explique un petit peu, c'est l'histoire de Mason Wartman, le bon Samaritain qui a lancé ce concept de part de pizza en attente. En 2013, il a quitté son emploi à Wall Street pour ouvrir Rosa's Fresh Pizza, une boutique qui vend des parts de pizza pour seulement 1$, taxes incluses. C'est assez répandu aux États-Unis. Et un jour, il y a un client qui y arrive et qui lui demandait s'il pouvait acheter une part de pizza en attente pour quelqu'un d'autre qui va venir par après, quelqu'un dans le besoin. Alors, cet ancien banquier a été touché par ce geste. Il a dessiné un smiley sur un post-it. Il l'a collé sur le mur de la pizzeria pour symboliser une part gratuite pour quelqu'un qui en avait le plus besoin, à savoir un sans-domicile fixe ou quelqu'un qui souffrait de la faim. Et l'idée a rapidement fait le tour de la ville et même du pays, comme quoi n'importe qui dans le besoin pouvait se rendre dans cette pizzeria et utiliser l'un des post-it sur le mur comme bon pour une part gratuite. Et depuis que le premier client a payé en avance une part, c'était en mars 2014, plus de 8300 parts ont été offertes par Rosa's Fresh Pizza pour nourrir ceux qui en ont besoin. Mason Wartman estime que sa pizzeria donne environ 30 à 40 parts par jour. Et c'est une bonne idée parce que finalement, les gens qui ont envie de manger une pizza, ben, ils vont dans ce restaurant et à la place de payer leur pizza 1$, ils vont la payer 2$. À quand la même chose chez nous ?
C'est une très bonne idée.
En Italie, ça existe déjà pour
Ce sera 15 balles, hein, ça fera 30 au lieu de 15.
Ouais, alors voilà, ça calme un petit peu. Hein. Mais en Italie, je sais qu'il y a des endroits où on fait ça avec le café. T'es deux, tu vas te prendre un café, puis à la place d'en payer deux, bah, t'en payes cinq. Et puis du coup, bah, y en a trois autres après qui seront offerts à des gens qui en ont besoin.
Voilà une idée lumineuse.
Bonne nouvelle.
Ça doit le changer de Wall Street. Hein.
Ah, alors ça, c'est
ça,
sûr.
C'est sûr. Radio
Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Du Fribourg.
Jamais 203.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dans quelques instants, une enquête musicale de Jonathan. Il est toujours avec nous, hein, bien sûr.
Bien sûr.
Et puis là, tout de suite, mesdames et messieurs, Jérémy Croza, celui qu'on attend tous.
Ouais, salut les Crozous.
Ouais.
Et vous savez qui a son anniversaire aujourd'hui, hein?
Non.
Alors, petit indice, cette personne est plus âgée que Michel Drucker. Enfin, je crois que c'est la seule personne plus âgée que Michel Drucker. Je veux bien entendu parler de la reine Elisabeth II. Non, stop. Là, vous êtes trop
pas
hein.
Ah, pardon.
Non, ça, c'est une autre reine. Vas-y, envoie. Ah, voilà. Voilà. Donc, Elisabeth Alexandra Marie, oui, c'est son vrai nom, est née le 21 avril 1926. Elle fête donc aujourd'hui c'est... Ah bah voilà, Jonathan, ah, je vois que les mathématiques sont un mauvais jeu de mots. Ce n'est pas votre tasse de thé. Mais c'est pas grave. 96 ans. 96 ans.
Oh là là là.
Ouais, et je peux vous dire que j'étais tendu, hein, parce que j'ai écrit cette chronique hier et j'avais hâte de voir si elle avait tenu le coup jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est fait. Ouf. La reine Elisabeth II, reine sur le Royaume-Uni et sur les autres royaumes du Commonwealth depuis plus de 70 ans, 2 mois et 15 jours. Son propre règne aurait déjà pu prendre sa retraite depuis 5 ans. C'est fou, quoi. Je me demande si elle touche des primes d'ancienneté. C'est fou. Et la reine Elisabeth, elle est reine depuis qu'elle a 25 ans. Moi, à 25 ans, j'étais meunier.
Meunier.
Elle était à la tête d'un royaume, mais moi, j'étais employé dans un moulin. Chacun ses responsabilités. Et durant son règne, elle a déjà eu 15 premiers ministres différents.
Waouh.
Bon, ça semble pas énorme en 70 ans, hein, quand on pense que le roi Constantin Ier du FC Sion a changé 5 autres cette fois d'entraîneur en 23 ans de règne.
Pas mal.
Bref, revenons-en à Elisabeth II. Elle s'est mariée en 1947 avec le prince Philippe de Grèce et de Danemark. Et là, je ne sais pas si c'est un faux et vrai, mais c'est ce qui est écrit sur Wikipédia. Je cite, ils sont cousins issus de Germain par le roi de Danemark et cousins arrière issus de Germain par la reine Victoria.
Ouf. Ouais, ils sont tous de famille.
Ouais, bah, c'est ça, si c'est vrai, bah, l'arbre généalogique, il n'y a pas besoin de le faire, c'est juste un tronc. Hein. Et ensuite, il est écrit, je cite, au début, cette relation suscite quelques controverses. Philippe n'est qu'un membre d'une branche cadette de la maison royale de Grèce qui a connu nombre de vicissitudes depuis le début du siècle. Oh. De plus, ce prince d'origine étrangère n'est pas fortuné.
Oui, Stéphane Merle.
Et c'est ça qui pose problème. Quoi. C'est ça la controverse. Alors, le fait qu'il soit cousin, ça dérange personne. Hein. Oui. Et ça pourrait expliquer certains comportements étranges de sa progéniture, hein, comme l'amitié entre son fils Andrew et un certain Jeffrey Epstein, ou l'amitié entre son fils Charles et un certain Jimmy Savile. Que des bons types, visiblement. En parlant du prince Charles, lui doit vraiment ranger son frein. Il a 73 ans et il attend et il sera certainement jamais roi. Alors ça me fait penser à moi que j'étais remplaçant au foot. Il reste 2 minutes avant la fin du match et j'espère quand même pouvoir rentrer sur le terrain. Bon, la différence c'est que Charles espère qu'il n'y aura pas de prolongation et que ça se règle à la mort subite. Enfin bon, vous aurez compris que vous parlez de la vie d'Elisabeth II en 3 minutes, c'est comme essayer d'avoir un summer body avant le mois de juin. Je n'ai clairement pas le temps. Donc félicitations à Elisabeth et que Dieu la sauve.
Merci, félicitations.
Merci
à Jérémy Croza à l'instant dans Jamais 203. Jérémy qui sera sur la scène du Strap à la fin du mois de mai. Hein, là. On a encore le temps de prendre nos billets là.
Exactement, le 27 mai. Ouais. Je ne reviens pas sur Fribourg entre deux, donc notez cette date. Ouais,
le 27
mai au Strap.
C'est des dates collector et puis toujours sur Internet, sur les réseaux évidemment.
Oui, Instagram, Facebook, Jérémy Croza et sur Tinder, Petite Fleur 69.
Petite Fleur 69.
Ah non, c'est pas vrai. Jonathan arrive dans quelques instants pour une de ses enquêtes musicales sur
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
C'est l'heure de notre étude du jour. On va parler des métiers qui vont connaître une forte hausse de salaire en 2024. Ça peut être intéressant quand même, hein. Face à l'augmentation des prix en général. En gros, première chose, les salaires devraient augmenter l'année prochaine de 4,5% en moyenne. Sachant que l'inflation devrait s'établir à 4,2% déjà sur l'année 2023, on n'aura rien gagné de plus. 850 métiers ont été étudiés dans 25 secteurs d'activité pour savoir où il y aura une plus grosse revalorisation des salaires. En gros, c'est où c'est le plus difficile à recruter. Et on a besoin de métiers d'experts. Dans ce secteur-là, on pourra avoir une hausse de salaire jusqu'à 15%. L'ingénieur DevOps, plus 10 à 15. L'ingénieur Cloud, de 7 à 13%. Les ingénieurs en cybersécurité, les experts en intelligence artificielle. Waouh, là, ça va monter, hein. Côté finance aussi, contrôleur de gestion, comptable général, ça pourrait être le jackpot avec une hausse de rémunération jusqu'à 10%. Dans le monde de la transition écologique et du savoir-faire du technicien, là aussi, ça monte. Côté industrie également, ce sont les spécialisations dans la transition énergétique qui permettent d'espérer les meilleures revalorisations salariales. En gros, les profils techniques auraient des salaires qui vont partir tranquillement à la hausse. Alors, on se recycle ?
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
L'énorme matin.
Le deuxième réveil.
Allez, c'est parti. C'est parti.
Il y a 8, c'est trop.
C'est parce qu'en fait...
C'est parti.
On est dans la réflexion avec des charades, c'est ce qu'on nous propose ce matin. Une battle de charades.
Battle de charades, mais quelle bien bonne idée.
Il y avait trop d'aide pour moi, alors j'ai vu tout ça.
Alors j'en ai deux.
Ouais, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que Rio, lui, les a créés sur, sur le moment, tandis que moi, je cherchais ça sur Internet.
Ah non, mais j'ai fait preuve de grande imagination.
Alors, on t'écoute.
Ah, attention, mon premier est l'opposé du Sud.
Nord.
Voilà. C'est le Nord, hein.
Le Nord.
Voilà. Okay. Mon second est ma mère, Latina. C'est la...
Ah, c'est la mama.
Voilà. Et mon troisième est une plante aromatique.
Le Nord, mama. Et puis je vois pas de la sauge. Non, le thym.
Le thym, ouais.
Le thym.
Ça fait.
Le Nord, mama thym.
Le Nord, matin.
Comme avant, c'est le Nord, mama thym.
Le Nord, matin.
Je bégaye un peu ce matin.
Ouais, ouais.
De mon côté, j'ai celle-ci. Mon premier aime le lait. Un petit animal. Voilà. Mon deuxième est le contraire de tard.
Château.
Oui, voilà. C'est un monument fortifié.
C'est tout.
Ouais, c'est facile.
Attends, Marie Sérienne, elle est là. On va pouvoir.
Ah, on va lui. Ah, ouais. Très bien. Une petite charade, Marie.
Dis-moi.
Alors, mon premier est une couleur.
Bleu.
Bleu.
Non.
Rouge.
Oh, non.
Rouge.
Non.
Vert.
Non.
Jaune.
Jaune, voilà.
Parfait.
Mon second est une particularité capillaire qu'on peut tirer.
Les cheveux.
Non. Quand tu t'attaches les cheveux et tu fais une...
Tresse.
Non.
Une couette.
Couette.
Non. Une...
C'est dur.
Une queue.
Une natte.
Une natte.
Une natte.
Ah, ok. Et mon troisième... Passe.
Ah, ouais,
inlassablement, évidemment.
Jonathan.
Bravo. C'est un peu tiré par les cheveux, en effet. Une petite dernière de mon côté, j'en ai encore une simple.
Elle n'est pas meilleure. Hein,
celle que non, elles sont pas. Voilà. Mon premier est le contraire de haut.
Ah.
Quoi?
Oui.
Ah. J'ai le pas contraire compris. De haut, c'est A.
Ah oui. Dans les voyelles. Ah.
Excellent. Mon deuxième est le contraire de rapide.
Lent.
Mon troisième est le contraire de matin.
Balançoire.
Ah, bravo.
Bravo.
Voilà.
Quel jeu.
C'était super. Hein.
Oui.
C'est ce qu'on nous a proposé. On
va
dit.
Faire ça.
Faites une battle de charades. Donc, on a essayé de faire ce qu'on a pu.
Voilà. Pleurer. Moi, j'ai quand même fait des thématiques liées à l'émission, quand même.
Oui, tout à fait. Tandis que moi, j'ai trouvé des choses sur Internet, puis des choses assez simples. Ouais.
Oui, oui.
Parce que c'était un peu compliqué ce matin de mettre un petit peu les idées en place. Et de ne pas rajouter des lettres dans tout ce que je dis.
Parfois, bon, l'énorme mamatin, quoi.
L'énorme mamatin, c'est parti.
C'est bien.
C'était super.
Radio Fribourg. La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Heidi, Adi. Cathy.
C'est elle qui nous dit chez Apple et Migros.
Non, non, moi je, lui dis, je vous dis kiss my lips. Ah, ça lui irait bien hein, quand même.
Ah ouais,
shut up and let me go. Ah, ça, c'est vrai que ça pourrait être mon slogan.
Ouais, ouais, exactement. Ouais.
Si
ouais,
je travaillais à Radio Freiburg, en USA, peut-être je dirais shut up and let me go.
Ouais.
Yeah. Ouais.
Ça, c'est clair.
Ça, c'est clair, ça.
Eh, hey, on est content quand même, hein.
Ah, oh, c'est l'été, c'est le bonheur, Heidi.
Ouais, c'est plus ting ting, c'est tong tong maintenant, tous en tong. Ah non, mais c'est très bien, c'est très très bien. On est super content, c'est la super fête. Je suis toute dégoulinante, toute puante, de sueur, de transpiration, toute. Je sais
c'est
pas.
C'est un peu pareil. Hein.
J'adore. Il faut dire qu'elle bouge, hein, aussi. Hein. Elle n'a pas rien fait aujourd'hui à cause de la chaleur. Hein.
C'est vrai, c'est pas faux. Je suis montée sur des échafaudages.
Ouais.
Accrocher des bannières qui ne sont même pas de notre radio.
C'est la honte! C'est la honte, pas normal! Oui, alors merci.
Quoi?
Il y en a marre maintenant des radios concurrentes qui veulent nous mettre des panneaux d'affichage à la place de notre radio à nous qu'on aime et que c'est nous les meilleurs.
Heidi, c'est elle qui doit afficher les panneaux des radios concurrentes? C'est quoi ce délire?
Oui, parce que c'est vrai, la Jazz Parade, vous voyez de très très grosses affiches avec des très très gros fagnons, des banderoles énormes!
D'une radio pour personnes âgées.
Ah, le truc DMS.
Voilà.
Mais laquelle, option musique ou...
Non, l'autre.
Ah, l'autre.
Ouais.
RSF.
Avec le 2 au fond.
Space.
Space FM.
Ça fait mal au cœur.
On va les appeler Space FM. Voilà. Comme ça, ils ne se reconnaîtront pas.
Space FM 2, ouais.
Space FM 2. Non, ça fait mal au cœur. Hein, quand on sait le soutien qu'on a fait à cette Jazz Parade depuis 20 ans, au moins. Bah, c'est la 22e édition, non?
Moi, je dis que fait notre directeur.
Ah oui, c'est vrai qu'on avait des jolis logos Radio FM l'année dernière.
Moi, je dis que fait notre directeur.
C'est vrai.
Bah, il est justement à la Jazz Parade.
Ah, c'est là-bas qu'il faut aller le chercher.
D'accord. Ah, bien. Voilà, si vous cherchez un emploi dans la radio pour la rentrée septembre, n'hésitez pas.
Faites afficheur.
Les embauches se font au stand de la Jazz Parade. Au niveau du bus. Voilà.
Afficheur pour autre radio.
C'est
pas mal,
ça. Ouais, c'est du bon.
panelière
aussi.
Panelière.
Exactement. Ah oui, tiens, ça c'est vrai.
Oui, j'ai commencé dans l'école des fans, ça c'est très français. C'est moi qui avais fait les petits panneaux avec les notes. Que quelqu'un reçoit un message. Alors, j'avais fait les panneaux de 1 à 10. Pour l'école des fans.
C'est moi.
C'est
moi la créatrice
mais
des
panneaux. Mais oui, j'ai 75 ans.
Donc, prête pour aller bosser sur l'autre radio, alors?
Non, mais pas de problème. Puis je leur donnerai des notes de 1 à 6 ensuite. En Suisse,
en Suisse c'est de 1 à 6.
Ouais. Non, ça dépend. Sur le canton de Vaud, moi, j'ai toujours eu jusqu'à 10. Hein.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Puis nous, c'est jusqu'à 20. Comment ça se fait? C'est que vous n'arrivez pas à gagner autant de points que nous quand
ça
vous faites les arts. C'est parce qu'après, vous les perdez, vous, avec le permis. C'est pour ça.
Ça d'être jusqu'à 20 en Valais aussi, avec toutes les caves qu'ils ont là-bas.
C'est vrai. C'est pas faux. C'est vrai. Après, c'est plutôt des points noirs qu'on a quand on a trop bu. Histoire de points. Voilà, donc j'ai chaud, puis je suis sourde.
C'est vrai que la jazz, ça rend sourd.
C'est vrai, non, mais imaginez-vous.
Il y a des tentes en même temps.
Mais bien sûr, mais imaginez-vous dans une tente quand même totalement fermée. Avec un big band de 19 musiciens, dont la moitié, voire les deux tiers, ce sont des trompettes, des cuivres, enfin des machins.
Des vouvouzelas
là. Pas du tout sonore. J'aurais préféré la vouvouzelas là, peut-être. Hein. Non, c'est très très sympa. Ils s'accordent tous ensemble.
Et ça parle suisse-allemand en plus ce soir.
Et ce soir, voilà, c'est spécial Suisse-Allemagne. J'adore
dire Suisse-Allemagne.
Ça. C'est Suisse-Allemagne, c'est comme la Coupe du Monde.
Ouais. Bah oui, exactement. C'est Gustave, première partie, c'est du hip-hop.
C'est du hip-hop, Egipa, Fifa Hunter.
C'est plus Suisse-Saint-Gine là. Hein.
Ah non, mais on est très très fiers. Bah, c'est marrant parce que je fais ma chronique à l'envers avec vous. Tout ce que j'ai écrit, je le fais à l'envers.
C'est bien.
J'allais parler d'Egipa Fifa Hauteur juste à la fin, mais non, il passe en fait en premier à 20h. Vous pourrez venir voir ce groupe merveilleux. C'est du très très bon hip-hop.
Et Marco de Radio Freiburg.
On est très très fiers, voilà. Parce que c'est Marco Dietrich de Radio Freiburg qui est membre du groupe et c'est super bien. On a écouté le soundcheck et pendant qu'ils étaient en train de répéter, il y avait plein de petits jeunes, plein de gens qui se disaient c'est quoi ce son? Qu'est-ce qui tousse comme ça? Et puis ils sont tous allés voir et puis je pense que ce sera plein ce soir. Alors dépêchez-vous, rentrez vite, c'est pas cher, c'est 5 ou 10 balles, je sais pas, mais peu importe.
Quelque chose comme ça.
Plein de 4 concerts pour 5 ou 10 balles. Moi je dis c'est rien, ça vaut la peine, c'est beau quoi la vie.
En plus c'est moins cher que l'année dernière.
Merci monsieur Engeli.
Mais oui monsieur Engeli, merci.
Ça rime avec c'est beau la vie.
Oui, mais calmez-vous. Un peu hein, quand
et
même,
puis,
monsieur Engeli. Hein.
Non, mais je veux dire, c'est des conditions extrêmes en ce moment, la Jazz Parade. Il fait chaud, vraiment, on a chaud. Venez tous, il y a des femmes nues partout.
Ah bon?
Mais non, je déconne. Puis après, la Jazz, va falloir aller en vacances un peu. Hein.
Bien sûr.
Va falloir se reposer, hein, Tania, Rio, tout
oui,
ça.
Oui,
vous partez un peu?
Non.
D'accord,
on
moi c'est clair.
Mais non.
Non, mais on va partir en vacances. Ben oui, moi j'ai le droit de partir en vacances. Hein. Je suis française, il y a eu 1936, le Front Populaire, ça a donné ses fruits, on est content.
Bien sûr.
Il y a eu 36 en Suisse, ou alors l'histoire de la Suisse a commencé en 1950?
À peu près.
Ça existait avant la Suisse? Avant 36, il y avait une Suisse?
Vous êtes pas très gentil.
Oh, mais je déconne.
Elle connaît pas
l'histoire de Guillaume Tell. Alors ça, c'est non, typique, vous, les Français, hein. Oui, oui. Parce
ouais,
que...
ouais, à la Coupe du Monde, il y a Coulou, on a vu.
Bah oui, nous aussi, on a
C'est vrai. Fou, alors là, je le revendique. À la Coupe du Monde, il y avait nous qui étions les plus mauvais.
C'est vrai.
Je suis désolé. On était les pires.
Ah, la honte.
Champion du monde des pires.
Ah oui.
Alors là, il n'y a pas de doute, quoi. Ah non, tiens, regardez mon siège, il s'en va avec moi. Tellement ça me rapetisse. Au secours.
C'est vrai qu'elle bouge, elle devient toujours plus petite.
Bon, bah, je me remets debout. Voilà.
Non, mais c'est preuve que Heidi est intégrée quand même en Suisse. Parce que vous avez vu, normalement, quand même, en tant que française, elle aurait quand même crié haut et fort quelque chose de magnifique sur l'équipe de France, même s'ils ont les pieds dans le caca.
Ouais, ouais.
Voyez ce que je veux dire. Mais non, voyez, elle a même dit non, voyez, on était nuls et tout.
Ah ouais.
Comme quoi, c'est
chanteuse. Il y a un début d'intégration.
Mais ça, c'est à cause du soleil. Regardez.
Les Brésiliens aussi tirent la tronche.
J'ai pris des coups de soleil, je suis devenue rouge et blanche, comme les couleurs de la Suisse. Un coup de soleil rouge sur une peau blanche, je veux dire, j'avais pas le choix. Hein.
Ah, c'est vrai, elle fait typique.
Parce que si, au lieu d'être vraiment française, la bleue.
Alors, le 1er août, je peux vous mettre sur un petit mât
en palais.
Il faudrait lui mettre dans le dos une croix de crème solaire.
Ouais,
et puis
exactement.
Après, on va la mettre sur un drapeau.
Elle pour le 1er août.
Porte-drapeau pour notre patrie.
Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai ça, déjà les cheveux mal qui volent au vent comme un oriflamme.
C'est pas mal. Très bonne idée.
Radio FR.
Radio FR.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Allez, c'est l'heure de notre arrêt télé. La semaine dernière, Guillaume Meurice avait créé une grosse polémique avec une chronique sur France Inter. Ça a fait le tour de tous les médias pendant toute la semaine. Faut dire qu'il comparait le premier ministre israélien à un nazi sans prépuce. C'est mal passé. Dimanche, défendant sa propre outrance, il a donné la parole à un collectif juif décolonial pour appuyer ses propos. Voici un extrait de la nouvelle chronique que tout le monde attendait.
Et c'est la chronique, j'ai l'impression qu'elle est pas mal attendue. On va faire un bon score médiamétrie. Alors allons-y. Bon, déjà, je voulais vous dire que j'ai lu aussi les remarques constructives suite à cette histoire de Netanyahou nazi prépuce. On m'a dit, ouais, mais le Hamas aussi sont des nazis sans prépuce. Et oui, et j'ai jamais dit le contraire. Je me demande même s'il n'y a pas un problème avec cette absence de prépuce, ça les énerve en fait. Parce que ça gratte, je ne sais pas. Bon, sans doute un facteur aggravant.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Tout le monde, hein.
C'est une autre histoire.
Ah, cette émission dans laquelle nous aimons connaître l'histoire pour comprendre le présent et mieux appréhender l'avenir. Et pour ça, nous avons le meilleur de tous les historiens qui est avec nous comme tous les mardis. Bonjour Alain-Jacques Tornard.
Bonjour Mike.
Il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il a à me faire autant de compliments, hein.
Il a quelque chose à me demander, je parie.
Bon, je sais pas, nous amener un invité, par exemple, vous les choisissez toujours si
oui,
bien.
Oui, alors. Et quel invité?
Quel invité, hein.
Alain Sébius. Les Alains, vraiment, c'est toujours les meilleurs.
Il y en a beaucoup, effectivement, dans le poste. Alain Sébius, personnage très éclectique. Soyez le bienvenu, hein, Alain.
Merci, bonjour Mike, plaisir, bonjour Alain-Jacques.
Plaisir de vous accueillir, vous qui êtes à la fois homme de théâtre et écrivain. Et si Alain-Jacques Tournard a fait le choix, très bon choix, de vous inviter aujourd'hui, c'est parce que votre actu du moment s'y prête. Vous venez de nous sortir mort suspecte dans la broie. Alors mort, en radio, c'est pas forcément évident, puisqu'on le prononce. Il y a un jeu de mots dans le titre, hein, expliquez-nous ça.
Absolument, absolument.
Hein. On l'écrit comment, mort, alors, en l'occurrence.
Voilà. Oui, ça raconte l'histoire de morts, M-A-U-R-E-S, qui était à Estavayer pendant la guerre.
Voilà, il y a des morts, donc des gens qui décèdent, évidemment. Absolument. Autrement, ça ne serait pas un vrai polar. Et puis, pourquoi alors mort écrit comme vous le dites?
Il y a eu plusieurs idées de titres. Et ça parle des Spahis, on va en parler tout à l'heure, de l'arrivée des Spahis à Estavayer pendant la guerre. Mais,
donc les soldats nord-africains.
Oui, absolument. Africain qui était français à l'époque, bien sûr,
français
d'Algérie, mais plein de gens ne savaient pas ce que c'était les Spahis, c'est expliqué bien sûr dans le roman.
Nous sommes en 1940, on a eu l'occasion de traiter une fois des Polonais qui sont arrivés, mais il n'y a pas eu que des Polonais, il y a eu aussi des Français, et en effet des Français d'origine musulmane, et une partie d'entre eux se sont retrouvés au mois de juin 1940 à Estavayer-le-Lac.
Absolument.
Et là, bien entendu, ces gens-là vont jouer. Il va y avoir une rencontre assez inopinée entre deux populations qui sont finalement très éloignées les unes des autres. On n'a pas l'habitude à Estavayer de voir débarquer des gens venant de pays
comme ça. Oui, et en même temps, il y avait une compagnie de jeunes hommes bronzés, musclés, qui sentaient bon le sable chaud, qui venaient remplacer nos bons staviaquois, certains qui étaient à la mobilisation.
Oh là là, ça du mal,
tout ça. J'imagine que ça créait des tensions dans la population locale. C'est d'ailleurs toute l'intrigue.
Des tensions sexuelles.
Voilà,
de ce livre. Hein. C'est un polar, s'appelle Mort suspecte dans la broie, qu'on aura le plaisir de découvrir avec son auteur, Alain Sébius. On va vous permettre de mieux faire la connaissance d'Alain Sébius, hein, même si ce n'est pas la première fois que vous venez sur Radio Fribourg. Alain, on verra qu'en plus de l'écrivain, il y a l'homme de théâtre et celui qui est en train d'écrire un scénario pour une série qui va prochainement débarquer sur la RTS. Ça va, les journées sont suffisamment longues, Alain Sébius?
Elles sont suffisamment longues, oui.
En tout cas, c'est très sympathique de nous consacrer une petite partie de votre temps. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, une petite dizaine de minutes devant vous pour écouter l'édito d'Alain Jacques Tornard?
Avec plaisir.
Parce qu'on verra aussi, on va tirer un petit parallèle entre la terrible situation qui se passe en ce moment en Ukraine et puis voilà, ces réfugiés dont vous parlez dans votre livre, hein, qui débarquent. Nous sommes dans les années 1940. L'Ukraine, on en a déjà beaucoup parlé ces dernières semaines avec vous, Alain Jacques Tornard. C'est une espèce de trilogie qu'on va boucler aujourd'hui. Le dernier volet va parler de quoi exactement?
Alors, nous avons parlé des Américains, nous avons parlé de la vision russe, la vision ukrainienne, mais il y a aussi une vision chinoise.
Je sais que la Chine fait parfois très peur à Alain Jacques Tornard. Votre édito dans quelques instants après George Michael et Face sur Fribourg.
C'est une autre histoire.
Alors, dans cette émission, nous vous avons beaucoup parlé de la guerre en Ukraine, hein, vue depuis l'Occident. Pour commencer, ça avait été notre premier volet, l'Occident où les Russes sont considérés comme les grands méchants de l'histoire. Dans une deuxième émission, Alain Jacques Tornard a nuancé un peu, il nous a expliqué pourquoi la Russie, au risque que ça choque peut-être l'opinion publique ici, considère l'invasion de l'Ukraine comme légitime. Bon, aujourd'hui, on va boucler cette trilogie avec la Chine. La Chine qui, on le sait, Alain Jacques Tornard, c'est un secret pour personne, déteste les États-Unis et qui pourrait choisir le camp russe, hein, pour faire un pied de nez comme ça à l'Occident. Hein.
Oui, alors, bien sûr que la Chine, c'est loin, loin, loin de l'Ukraine, apparemment. Mais la Chine et la Russie, c'est une longue histoire. D'ailleurs, ils ont aussi une longue frontière et aussi des liens extraordinaires. Il ne faut pas oublier que Vladivostok, qui est quand même l'un des rares ports en mer chaude en Union soviétique, enfin, vous voyez le lapsus, Union soviétique, mais en Russie, ça veut dire qu'il domine l'Orient. Hein, c'est pas rien, ça. Et la Chine a une relation tumultueuse avec la Russie. La Russie, on pense toujours que la Russie est notre ennemi pratiquement héréditaire, mais on a été relativement, l'Occident, peu en guerre avec la Russie. La Russie et la Chine, ça a été en dents de scie. Il ne vous a pas échappé que la Russie est partie très rapidement dans son histoire à la conquête du Grand Est, j'allais dire, hein, pour atteindre le Pacifique, puisqu'ils avaient même acquis l'Alaska. Faut pas l'oublier, hein. Ils l'ont vendu dans les années au milieu du 19e siècle, mais
ils ne bouchaient pas,
mais ils ont été très très loin dans l'Orient. Et donc, en plus, la Chine et la Russie ont une histoire commune. C'est tout simplement le marxisme, léninisme. Et l'un et l'autre en sont sortis plus ou moins, puisque la Chine, je rappelle quand même qu'officiellement, elle est toujours communiste.
Elle a sauf que c'est devenu un capitalisme d'État.
J'allais dire même un capitalisme sauvage, quelque part. Mais officiellement, c'est un pays communiste. Mais en tout cas, tous les deux ont conservé de leur héritage marxiste un présent autoritaire. C'est un héritage, tout simplement. Alors maintenant, si on reprend un peu la chronologie des conflits entre la Russie et la Chine, eh bien, on se rend compte que c'est vraiment une relation du genre « je t'aime, moi non plus », parce qu'il y a eu souvent des luttes, et puis suivies d'alliances objectives. Et nous sommes, par exemple, actuellement dans une période d'alliances objectives. Il ne m'étonnerait pas qu'il y ait, par exemple, un accord déjà secret entre la Chine et la Russie. Alors ça remonte au traité de Nertchink du 6 septembre 1689.
Ah oui, vous êtes remonté très loin, là.
Oui. À la fin, il y a eu déjà là un conflit important. D'ailleurs, dans les années 1850, la Chine n'avait pas hésité à annexer une partie de la Chine du Nord. En 1871, elle avait envahi le Xinjiang, qui est chinoise, hein, région du nord-ouest de la Chine, qui signifie nouvelle frontière, c'est tout dire. Hein. Le XXe siècle a aussi été très troublé. En 1900, la Russie a annexé une partie de la Mandchourie. faut pas l'oublier, carrément, hein, la région du nord-est de la Chine, entre la frontière russe et japonaise. Oui, on va très loin. Dans les années 1920-1930, la Russie, qui entre-temps est devenue l'URSS, eh bien, a soutenu les révolutionnaires chinois et a envahi à nouveau la Mandchourie et le Xinjiang. Mmh. Avec l'arrivée de Mao Tse-tung au pouvoir en 1949, en fait, les relations s'apaisent, les Chinois vont s'entraîner en Russie. Là, encore une fois, on est dans la période d'alliance.
Les Chiang Kai-shek, c'était...
Exactement. Ouais. Mais alors, il y a une chose que les Chinois ont beaucoup reproché, c'est qu'ils ont trouvé que les Russes étaient des pieds tendres, j'allais dire, comme on dit Jean-Luc Guinuc, parce que lors de la crise de Cuba en 1962, les Russes ont reculé. Et les Chinois ont trouvé que c'était vraiment pas une chose à faire. Et que quand les Russes reculent, et les Chinois... avance. C'est un petit peu ça le
nature hors du vide.
Hein. Et ouais, exactement. D'où d'ailleurs en 1969 des combats qui ont lieu sur le fleuve Amour, un combat frontalier sur l'île de Zhenbao à quelques centaines de kilomètres au nord de Vladivostok. Toujours cette idée, nous aurons l'occasion peut-être d'en parler, la lutte pour la mer de Chine.
Ah oui.
Et ces mers-là.
Quoi faire, sujet
et donc,
passionnant là.
Malgré cette histoire tourmentée, les périodes de paix ont été dominantes dans l'histoire des relations entre les deux pays. Et là, je pense que dans cette période plutôt de réchauffement des relations entre la Chine et la Russie, la Chine, nous le verrons peut-être une prochaine fois, qui a pour objectif maintenant primeur mettre la main sur la mer de Chine et donc sur l'île de Taïwan, entre autres, eh bien, s'éloigne comme menace pour la Russie, mais la Russie a beaucoup d'inquiétudes à se faire parce que démographiquement, toute cette région au nord du fleuve Amour qui appartient à la Russie est assez vide, tandis que la Chine a une forte population qui ne demande que de progresser vers le nord et qui en plus se réchauffe.
La Chine a intérêt à avoir plutôt la paix ou un conflit en ce moment ? Qu'est-ce qui est le plus avantageux pour
eux ? Pas du tout le conflit en ce moment. Et, tant que les Russes sont occupés avec les Occidentaux, mais ça leur permet d'avancer leur pion ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Ça sera peut-être un autre aspect que nous traiterons ultérieurement.
C'est une vraie partie d'échecs qu'on est en train de vivre en ce moment.
Oui, oui. Et c'est surtout les prémices. Si vous regardez, si vous vous situez dans les années 1930, vous aviez déjà ces conflits en Extrême-Orient, vous aviez les conflits qui se préparaient chez nous, et tout ça, ça a donné une guerre mondiale.
Pas très rassurant la conclusion, hein, avec Alain-Jacques Tornard, donc notre historien qui nous accompagne jusqu'à 9h. Notre invité également, tout va toujours bien pour vous, Alain Sébius.
Très bien.
Passionnant
très bien.
D'écouter Alain-Jacques Tornard.
Je buvais les paroles d'Alain-Jacques.
Voilà. On va voir les vôtres, hein, dans un moment, Alain Sébius. Hein, vous allez nous parler de votre actu du moment. C'est ce nouveau polar avec un fond historique ô combien passionnant, Mort suspecte dans la broie. On va en parler après l'info de 8h30.
C'est une autre histoire.
Le nouveau président du Conseil national, enfant du pays, est pris dans la tourmente à la suite de la découverte fortuite de ses origines. Un tourbillon de meurtres non élucidés de 1940 à 1974 à Estavayer-le-Lac. C'est ça, la trame de Mort suspecte dans la broie, parue aux éditions Montsalvan. Son auteur est avec nous ce matin. Il s'appelle Alain Sébius. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Alain, vous avez l'œil d'Alain-Jacques Tornard, notre historien qui est en train de briller. Je vous laisse deviner pourquoi.
Ça parle d'histoire, c'est ça.
Voilà, et puis ça, vous avez déjà fait un heureux parmi vos lecteurs, Alain Sébius. Hein, vous avez tenu compagnie à Alain-Jacques Tornard dans son voyage à Rueil-Malmaison le week-end dernier. Vous avez lu le livre, hein, quand vous étiez dans le bus, Alain-Jacques, et c'est le contexte historique de ce polar qui vous a séduit. Hein. Nous sommes en 1940, avec cette histoire d'amour impossible entre une broyarde et un soldat nord-africain, ce qu'on appelle un spahi. On va peut-être commencer par planter un peu le décor. Qui étaient ces spahis et qu'est-ce qu'ils faisaient par chez nous ?
Bon, ils appartenaient à l'armée française qui était en déroute au mois de juin 1940. Il y a eu les Polonais et puis il y a eu aussi des Français et ces fameux spahis qui ont été qui se sont réfugiés en Suisse et puis très vite on les a éloignés de la frontière parce que les Allemands étaient pas loin. On a un climat extrêmement pénible, difficile et faut en mettre 300. Il y a tout un escadron parce qu'ils ont des magnifiques chevaux. Et puis alors, il faut absolument que je vous lise un passage.
Il est pressé de lire le passage.
Oui.
On va y aller tout de suite.
Quand ils sont arrivés un dimanche matin à cheval sur leur pur sang arabe au petit trot, les Stiavakois sentaient bien que leur vie allait changer. Certains se trouvaient rassurés d'avoir une armée, même des armées, pour les défendre puisque tous les hommes valides de notre ville étaient mobilisés. D'autres, les mères surtout, craignaient que leurs filles succombent aux rêves d'exotisme avec ces fiers jeunes hommes si virils. Et quelques-uns laissaient frémir en eux jusqu'à l'explosion imminente une jalousie toute masculine envers ces sauvages, ces bicots, ces bougnoules qui allaient sans aucun doute s'emparer de tous leurs avoirs. Moi, j'avais 17 ans, aucune opinion politique et j'ignorais même le mot racisme. Voilà. Le décor est planté.
Mais une belle plume, hein, quand même, Alain Sébius. Hein. Ce passage qu'Alain Jacques Tornard vient de nous lire, vous arrivez à le situer un peu dans votre ouvrage, au niveau de la trame, au niveau de l'histoire?
Oui, absolument. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand ces spahis sont arrivés, ça va. Et toutes les sources que je vous cite sont sorties des livres d'histoire. Enfin, ce sont les livres d'histoire.
Vous n'êtes pas historien à la base, on doit le préciser. Qu'est-ce qui vous a donné envie alors de vous intéresser à cette page d'histoire?
Je suis Staviaquois, puis c'est mon grand-père avait 34 ans quand les spahis sont arrivés. Mon père avait 11 ans. Ouais. Il n'avait pas l'école parce que l'instituteur était à la mobilisation. Donc il a passé sa vie avec ses spahis. Il les a vus égorger des moutons. Il les a vus faire des calvacades. Il les a vus se battre, mais pour rire avec des couteaux.
Ouais.
Des fois, il ne le faisait pas pour rire, mais pour le joli cœur d'une broyarde. Et puis les chevaux, la course de cheval que je cite au début entre Payerne et Estavayer a eu lieu avec la voiture était conduite par M. Meuvely, qui avait le garage La Poste, et bien sûr, c'est tout l'idée qu'on m'a raconté.
C'est des histoires qu'on vous racontait le soir avant que vous vous endormiez, par exemple, et ça vous a bercé, ça a bercé votre enfance.
Pour des repas, mais le roman était déjà fait, dans ma tête, il n'y avait plus qu'à l'écrire après.
Oui, alors là, on parlait des chevaux. Les hommes jalousaient ces magnifiques étalons. Je ne parle pas des chevaux. Ceux qui les toléraient étaient les rares qui faisaient commerce avec eux. Certaines femmes se pâmaient devant ces athlètes qui sentaient bon le sable chaud, mais elles étaient très surveillées. Chaque fois, ça donne envie de lire la suite. Hein. Là, je dis pas la suite, justement.
Ouais, parce que qu'est-ce qu'on peut raconter? Qu'est-ce que vous préférez ne pas trop raconter, Alain Sébius? Parce que forcément, nous sommes dans un polar. On s'en voudrait de trop dévoiler de l'intrigue parce que l'ouvrage perdrait de sa saveur. Hein. J'ai expliqué un petit peu ce contexte avec ce président du Conseil national hein, dont on découvre les origines. Je sais pas, vous avez envie de nous en dire un peu plus sur la trame véritablement de l'histoire?
Juste un petit détail, tous les noms de famille sont des noms assez typiquement staviaquois, même bourgeois d'Estavayer, dont Jean-Nicolas Bonny, ce conseiller national, mais j'ai pris des prénoms, pas dire improbables, mais un peu plus rares, et je suis sûr, je me suis renseigné, il n'y a pas de Jean-Nicolas Bonny, je voulais pas ce genre de problème. C'est tous des noms régionaux, et en fait, cette trame, c'est une histoire, un moment fort de cette ville. Il faut pas oublier, cette année-là, en 1940, est sorti un film suisse qui s'appelait Marguerite et les soldats. Gritli et les Soldaten. Mm-hmm. Et ce film a été tourné à Estavayer. Donc, moi, je l'avais vu quand j'étais petit. La ville n'avait pas changé. C'est toujours le même clocher, les mêmes rues. Donc, je trouve qu'une ville médiévale, avec un décor comme ça, ça s'impose de raconter des choses historiques, je trouve.
Puis c'est donc un perpétuel chassé-croisé, c'est ça qui est intéressant, entre un passé et le présent. En plus, deux passés, puisqu'il y a une action qui se déroule aussi en 1974. Et le principe de ce personnage, hein, Philibert.
Arthur C. Philibert.
Exactement. Hein. D'ailleurs, ça fait partie d'une. Pour le moment, ça sera une trilogie, mais ça ira peut-être plus loin.
Absolument.
Il y a déjà eu un ouvrage précédent qui s'intitule.
La fille aux dents de laine.
Voilà, exactement. Ouais. Et il a une particularité, ce détective, c'est que, bon, il travaille pour cette info. Donc, il est
là aussi dans le contexte qui existe vraiment.
Voilà, exactement. Mais alors, il a tendance à pour mener ses enquêtes à se déguiser avec les costumes d'époque. Alors là, en plus, comme c'est 1974, donc les années 70, un peu baba cool, il a un mélange de baba cool et un costume de spy. Alors quand il débarque, il est assez folklorique.
Alors, il a une espèce de béret qui tient à l'envers. Il a une cape, un burnou. Qui leur servait en même temps de sac de couchage aux spahis, ça leur protégeait, ils avaient un capuchon, ça protégeait les tempêtes de vent, mais quand ils étaient chez nous en Suisse, ça faisait comme s'ils avaient des costumes traditionnels, voilà, c'était leur breton.
Oui. Quelle est la part du réel, quelle est la part de l'imaginaire dans Mort suspecte dans la broie, Alain Sébius?
Alors, toute la trame, l'histoire de ce meurtre, est celui de 1940 et celui de 1974, c'est que là, c'est
ça, c'est purement fictif, c'est pas basé sur une légende, rien du tout.
Je sais qu'ils sont un peu battus entre eux pour le cœur pour des jolis cœurs.
Voilà, c'est peut-être ça qui a inspiré une partie de l'intrigue. Hein.
Mais pas à ma connaissance, il n'y a pas eu de meurtre.
Parce que, en fait, vous aviez véritablement envie de mettre en scène votre ville natale. Et Estavayer le lac, vous avez envie de raconter ce contexte historique. Pourquoi l'avoir fait dans le cadre d'un polar et pas dans un simple ouvrage historique, par exemple? Ça aurait été moins accrocheur, vous pensez?
Je suis un romancier, donc de toute façon, c'était... Même si je vais écrire l'annuaire téléphonique, j'en ferai un roman. J'aurai un peu beaucoup de personnages pour la compréhension, mais c'est ma vision du monde.
Ça nous permet d'entrer dans des lieux extraordinaires, le musée des grenouilles, ouais. Par exemple, les grenouilles naturalisées, et puis de temps en temps, on a des descriptions de la ville, juste trois lignes. Mmh. La ville d'Estavayer-le-Lac, ce joyau de pierre grise et jaune accroupi sur un lit de roseaux et qui s'imprègne du soleil qui se couche derrière les crêtes du Jura. Ça donne pas envie d'aller à Estavayer-le-Lac, ça ?
Si une fois vous avez la chance d'être à 500 mètres au large d'Estavayer sur le lac et vous voyez le coucher de soleil, vous regardez la ville, c'est exactement ça.
Le plaisir d'être avec Alain Sébius, notre romancier du jour. Il publie Mort suspecte dans la Broye aux éditions Montsalvens. On connaît un peu mieux le livre. Si on faisait un peu plus la connaissance de l'auteur dans les prochaines minutes. 39.
C'est une autre histoire.
Alain Sébius publie « Mort suspecte dans la Broye » aux éditions Montsalvens. C'est notre livre du jour sur Radio Fribourg. Et c'est cadeau pour nos auditeurs. Ça se passe dans la Broye, un mort suspect dans la Broye, comme le dit le titre. Mais dans quelle ville ? Pas trop dur, vous pensez, la question, Alain Sébius. Est-ce que vous voulez donner des propositions ou on leur met tout de suite ça comme question à nos auditeurs ?
On peut donner des propositions.
Allez-y.
Allez, Payerne.
Ouais.
Moudon.
Ouais.
Avanche.
Ouais.
Estavayer.
Je pensais que vous alliez citer toutes les villes de la Broye. Attention, hein. Vous jouez par WhatsApp, les amis. Hein. C'est cadeau pour vous, ce très beau polar sur fond historique. Le WhatsApp de Radio Fribourg, 079 127 70 60. Alors, Alain Sébius, j'ai lu votre bio. C'est très intéressant. En 2005, vous êtes encouragé, je lis tel que c'est marqué, à démarrer votre carrière de romancier par votre épouse, qui vous offre même un ordinateur portable. Et là, vous commencez l'écriture de votre premier roman, qui est encore... coincé dans l'ordinateur, c'est juste ?
Oui, celui-là, oui. C'est un premier geste, c'est un brouillon, c'est, évidemment. Mais
ça a servi de source d'inspiration à la suite de votre œuvre, quand même.
J'avais même écrit une pièce de théâtre qu'on avait jouée en 95, qu'elle travaillait, qui s'appelait Portafo et Portchartel. J'ai toujours écrit, mais un roman, c'est vraiment un chantier. Et là, c'est mon épouse, peut-être je devenais insupportable.
Hein. Non.
J'adore cette phrase de Pessoa, Fernando Pessoa, qui dit que la littérature existe parce que la vie ne suffit pas.
Oh, c'est peut-être ça. Dit, hein.
Je sais pas.
Et puis comme on a souvent eu l'occasion de le dire avec Alain-Jacques Tornard dans cette émission, il y a toujours derrière chaque homme une femme qui est là pour l'inspirer. Votre muse à vous, Alain-Jacques Tornard, c'est Gilliane qui nous écoute
tout
en ce moment. Hein.
Bonjour Gilliane.
qui a très souvent fait cette émission également avec nous parce que, pour expliquer un petit peu, rappeler à nos auditeurs, hein, Gilliane est également historienne, elle fait de très bonnes visites guidées de bulles. On l'invite très souvent également quand il est question du musée gruyérien. Vous êtes né donc à Estavayer, le lac Alain Sébius, c'est important de mettre votre ville en scène dans vos romans, justement ?
Mais je trouve que c'est... Enfin, bon, peut-être parce que je suis installé à quoi, mais je connais le décor, les figurants, les personnages, et puis c'est un endroit où il y a des films à faire, là-bas. Mais bon, des habitants d'autres villes médiévales diront pareil, c'est évident, mais il y a peut-être un côté chauvin.
L'eau qui s'écoule sur le pavé...
Par exemple, l'odeur. Moi, je connais l'odeur. Je veux dire, quand le printemps va arriver, la pluie du printemps sur les pavés, c'est pas la même qu'à un autre moment de l'année.
Il n'y a pas aussi l'odeur en hiver au bord du lac.
Ah oui, les roseaux qui pourrissent, pour moi, c'est un parfum. Je suis un peu bizarre, peut-être.
Les roseaux qui pourrissent, moi, je ne sais pas ce qu'il y a de plus agréable. Là, hein.
Mais c'est une odeur où la lèche, au printemps, la sens à ces jeunes roseaux qui naissent, là.
C'est peut-être des souvenirs de balade quand vous étiez enfant, oui, d'escapade avec votre famille ou vos amis.
Toujours dehors, effectivement, ouais. On allait, dès qu'il y avait un premier rayon de soleil, on allait au bord du lac, et puis aux vacances de la Toussaint, on y était encore.
Allez-y, Alain-Jacques Tornard.
Il y a eu déjà deux romans, et puis il va y avoir un troisième alors ?
Oui, absolument. Alors, il va déménager vers le sud de quelques dizaines de kilomètres, puisqu'il va s'appeler La Bâtarde de la Val-Sainte. Ah. Il va sortir ses aventures toujours de...
Cette fois en Gruyère, parce que vous travaillez en Gruyère.
Oui, alors je suis photographe d'intérieur à RIA.
Traduction en fait, radiologue.
Voilà, je suis technicien en radiologie à l'hôpital de Ria, ouais, à temps partiel.
Donc c'est toujours Arthur, c'est Philibert, le détective, qui va mener l'enquête.
Dans cette série-là, mais j'ai d'autres. J'ai même un autre polar qui est en train de se transformer.
Voilà,
mais
pour parler de La Bâtarde de la Val-Sainte, là c'est Arthur, c'est Philibert.
Oui,
alors,
absolument.
Hein, voilà.
Oui.
On peut déjà avoir un petit indice en ce qui concerne la trame de l'histoire.
Oui, c'est Arthur Philibert qui va passer un peu en convalescence du côté de Cernia. Mmh, et puis là, il va rencontrer une folle, une espèce de sorcière, et puis on va lui raconter son histoire. Et puis effectivement, il y a un meurtre qui a eu lieu en 1978, et puis il va enquêter.
Donc de nouveau, c'est différentes périodes de l'histoire qui s'entrechoquent. Alors,
j'aime bien qu'il y ait deux époques.
Et
bien,
c'est ça l'originalité de l'ouvrage.
Est-ce qu'il y aura un contexte historique justement dedans, comme le roman dont on parle aujourd'hui
En fait, pas trop. J'espère que les gruériens se reconnaîtront, mais ça montre. S'il n'y avait pas de meurtre, on aurait aussi pu raconter ce qui se passait un peu là-bas, à cette époque-là, c'est un peu cette mentalité, cette Val-Sainte qui est si secrète, mais qui en même temps est une chape morale un peu sur les gens à cette époque-là. Maintenant, je pense que les moines qui y sont maintenant ont beaucoup de place pour vivre, mais à l'époque, il y avait un peu plus, quoi.
Mais ils sont impliqués dans l'ouvrage ?
Oui, mais absolument, parce qu'ils ont la connaissance. On parle d'herbes médicinales, les herbes médicinales, ma foi, c'est des fois les herbes du diable.
Vous avez une riche carrière d'homme de théâtre, également Alain Sébius, toutes ces pièces, ces comédies musicales que vous avez écrites, mises en scène, interprétées. S'il fallait ne regarder qu'une seule de ces expériences théâtrales, ce serait laquelle ?
Où j'étais juste un petit acteur dedans, c'est Pierre de Sang, 1994, Estavayé. Une fresque historique.
J'avais vu, ça nous avait beaucoup impressionné.
Et c'était... Et voilà, on y est comme dire schizophrène, parce que du moment qu'on revêtait le costume, on ne voyait plus les gens actuels. On jouait au milieu d'eux, mais on pouvait croiser ses parents, puis on ne les regardait pas. C'était une autre dimension. C'est une expérience sur 3 ou 4 week-ends de juillet merveilleuse.
Très rapidement, pour terminer, Alain Sébius, en ce moment, vous écrivez un scénario original pour une mini-série pour la RTS. Ça va parler de quoi ? Vous avez le droit d'en parler.
J'ai le droit d'en parler, mais ça va parler d'une épidémie qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut penser. Le mot ne sera même pas... même l'esprit ne sera pas... ça n'a rien à voir avec ça. C'est une épidémie qui a lieu sur un attentat en Suisse romande, et puis on risque de mourir ou pas.
Les lecteurs qui veulent vous rencontrer, je crois qu'ils ont...